Radio X Files avec Christian Page et Camille. Radio X.
h 30 et bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Pour la prochaine heure, c'est l'émission Radio X Files qui s'installe et on est dans la thématique ce soir, ce 8 novembre, des énigmes de l'histoire et de l'actualité qui entourent des théories du complot ou encore des avancées dans les énigmes historiques. Et j'ai un extrait pour commencer cette émission ce soir, ou du moins le premier sujet de la soirée.
L'odeur de chair en décomposition imprègne la ville comme un brouillard putride. Des monceaux de cadavres empêchent l'accès aux ruelles. C'est comme si nous étions à la veille du jour du jugement dernier. Brûlez-la! Je vais vous donner un conseil. Faites vos affaires et partez, tant que vous le pouvez encore. Je l'ai croisée en ville l'autre jour. Elle se comportait bizarrement, je vous le dis.
Il n'y a qu'une seule explication possible. Elle a fait un pacte avec le diable.
Tu nous échapperas pas, sorcière.
Qu'est-ce qui va m'arriver? Ils vont essayer de te briser. C'est ce qu'ils ont fait à nous tous.
N'ayez pas peur, mon enfant. Votre salut est proche.
Il se passe des choses chez elle qui ne sont vraiment pas nettes. Elle a le diable en elle.
Ma volonté est plus forte que la vôtre.
C'est ce qu'on a. Personne n'est à l'abri.
Oh, que j'ai hâte de ce sujet-là ce soir, mon cher Christian, fraîchement arrivé de Salem, un des endroits mythiques pour les procès de sorcières. Je suis toute oui à t'entendre ce soir. J'espère que tu vas bien.
Ah oui, ça va bien. Écoute, c'est vrai que tu m'avais parlé que tu allais à Salem, mais je ne savais pas que c'était ces jours-ci. Non?
Oui.
Alors, j'espère que tu as apprécié.
J'ai aimé la visite du musée. Bon, à savoir, est-ce que les animatroniques sont toujours d'actualité? Bon, on voit oui. que ça a de l'âge, mais l'histoire, j'ai trouvé ça complètement aberrant de la façon que, ironiquement, comment je pourrais dire ça? De façon politique correcte. L'opinion d'une femme à l'époque comptait plus ou moins, mais des allégations de jeunes adolescentes qui voulaient s'amuser, ça, on a pris ça pour du cash en tabarouette. Hein?
Ah oui,
c'est ridicule comment ça s'est passé, puis ça en est choquant de l'apprendre, mais j'ai adoré la virée historique que j'ai fait dans le week-end de l'Halloween, en plus.
Moi, c'est un sujet qui m'a, depuis l'adolescence, ce sujet-là de la sorcellerie, hein, puis de, en fait, mais plus les chasses aux sorcières, tout oui. ça m'a passionné. La ville de Salem, écoute, on pourrait faire une série complète hein, pour essayer de documenter cette histoire-là. Parce que, bon, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent à propos de Salem et où ils ont une vision excessivement réductionniste de comment ça s'est passé. Tu sais, on s'imagine, ah, les sorcières de Salem, des gens les ont accusées, puis il y a eu des poursuites, il y a eu une persécution, puis il y a eu éventuellement des exécutions. 19 personnes ont été exécutées. Oui. Alors qu'en réalité, à l'époque, quand on visite la ville de Salem, là, aucune des sorcières exécutées ne venait de Salem.
Non.
Il faut savoir ça. À l'époque, il y a un ensemble de petites communautés un peu plus au sud, et ces petites communautés formaient, à l'époque, Salem-Sud. Et la ville de Salem que l'on visite aujourd'hui, c'est la ville de Salem-Nord. Et cette ville de Salem-Nord, c'est de là où se trouvaient tous les juges. Hein. C'est là que les procès ont lieu. C'est là que se trouvaient les juges. Mais cette partie de Salem-Nord, il faut le savoir, elle était... je ne veux pas rentrer dans un cours d'histoire, mais c'est un sujet qui me passionne tellement. La ville de Salem-Nord était une ville qui avait été fondée par des Quakers qui étaient aussi des fondamentalistes religieux.
Oui.
Et il y avait on avait pour objectif, en fait, une espèce d'autosatisfaction de nos propres besoins. Hein. Donc, la ville n'était pas ouverte à aucun contact avec l'extérieur. On devait entretenir nos propres animaux, entretenir nos propres cultures et aucun trafic avec les communautés extérieures qui étaient considérées un peu comme des impies. Hein. Donc, on était vraiment dans du fondamentalisme religieux. La ville de Salem-Sud, notamment la ville de Denver, étaient des gens qui étaient beaucoup plus ouverts à la culture extérieure et à des échanges. Et ça déplaisait aux gens de Salem-Nord qui disaient que les gens de Salem-Sud étaient sur la voie de la perdition.
Ben oui.
Alors, éventuellement, quand est arrivé ces premières accusations, et comme elles arrivaient par la bouche de gens qui étaient proches du pasteur local, alors là, évidemment, ça ne pouvait être que la vérité. Et en même temps, l'affaire de Salem, elle est très particulière parce que, bon, au-delà des accusations lancées par les proches de Samuel Parrish, qui était le pasteur, il y avait aussi des animaux qui tombaient malades. Et à l'époque, parce qu'il faut le savoir, hein, le procès des sorcières de Salem, c'est le seul véritable grand procès qu'il va y avoir aux États-Unis durant cette période qu'on a appelée la période des chasses aux sorcières. Il y a eu quelques accusations ailleurs, notamment au Kentucky, où des femmes ont été accusées de sorcellerie qui ont été exécutées pour les crimes qu'elles ont commis. Mais un procès de masse comme celui qu'on a vu, c'est un événement qui reste unique aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de chasse aux sorcières organisée comme il y en a eu en Europe.
En Europe, oui.
Et ensuite de ça, dans le cas des sorcières de Salem, il faut savoir, on avait une vision manichéenne du monde. Hein. Ça, quand on essaie de comprendre, et ça c'est toujours un peu, je sais que je me répète, mais je ne me répéterai jamais assez. On ne peut pas penser en 2024 comme les gens pensaient en 1794. Tu sais, tu comprends, il y a comme, faut faire attention, là. On a une tendance à se dire, oui, mais c'est des pensées qui sont archaïques, c'est des pensées primitives. Oui, mais ces gens-là pensaient en fonction de leur époque. Et ça, on voit trop ça, je ne veux pas utiliser le mauvais mot, là, le mot « woke », là, tu sais, là.
Ouais,
mais
ouais.
C'est vrai qu'on a une façon de voir où des fois j'entends des gens qui font des commentaires, puis oui, mais... Ouais, mais c'est un procès qui s'est tenu au 13e siècle. Tu sais, au 13e siècle, il y avait une vision du monde bien différente de la tienne. Tu sais, je veux dire, tu peux bien aller déboulonner toutes les statues que tu veux sur la place publique, le couper à la tête ou quoi que ce soit, parce que un était contre les Autochtones, puis un autre était pour l'esclavage. Ces gens-là pensaient en fonction de leur temps. Et ça, on commet des erreurs en ne voyant pas de ça de cette manière-là.
C'est beau qu'on le reconnaisse, mais de là à vouloir réécrire l'histoire, oui. On a tout faux là, d'essayer. Il faut juste vivre avec cette réalité-là puis pas répéter les mêmes erreurs. C'est un peu ça, je pense, évoluer. Là.
Tout à fait. C'est un peu comme les gens, si on se dit au siècle dernier, quelqu'un était malade, on lui faisait des saignées. Peu importe la maladie qu'il avait, il faisait des saignées puis il mourait. Bon, on aurait beau essayer de faire un jugement de ça en fonction de ce que l'on sait aujourd'hui de la médecine, ça serait une erreur.
Mm-hmm.
On reconnaît que c'était pas...
Fallait les saigner quelque chose.
Les saigner, c'était pas très bon, là, quand même, mais il faut quand même comprendre que ces gens-là pensaient avec une vision de leur époque. Dans le cas des sorcières de Salem et dans le cas de toutes les chasses aux sorcières, c'était une époque où on avait une vision très manichéenne. Hein. C'est ce qui était bien pour le monde, c'était Dieu c'était une grâce de Dieu, et ce qui était mal, c'était le diable. Et il y avait une vision très biblique où si le diable est là, il faut qu'il ait été invité. Hein, dans le péché originel, hein, c'est lui qui invite Ève à goûter au fruit de l'arbre de la connaissance,
oui.
Ou la pomme, là, comme on aime bien le dire dans le langage populaire. Mais il y a une invitation. Hein, il est là, il invite et c'est les gens qui... C'est dans le cas du péché originel, c'est Ève qui accepte l'invitation du diable. On a cette pensée manichéenne va marquer la fin du Moyen-Âge, début de la Renaissance, et on retrouve cette pensée-là dans les mouvements le fondamentaliste religieux comme les Quakers qui vont s'installer à Salem. Cette vision-là que s'il y a quelque chose de mal qui survient, c'est le diable, si s'il y a quelque chose de bien, c'est Dieu. Alors en même temps qu'il y a cette vision où les gens de Salem-Sud ont tendance à faire commerce avec d'autres personnes de ce qui va devenir éventuellement le Massachusetts et Boston, hein, qui,
ouais.
Où il y a un commerce qui s'établit, En même temps que ça se produit, il y a dans la communauté de Salem Nord des animaux qui commencent à tomber malades. Et là, on se dit, c'est forcément le diable qui a fait ça. Il y a des périodes qui sont difficiles. Et si les animaux sont malades, c'est parce que c'est le diable. Et si le diable, il est là, c'est parce qu'on l'a invité. Et qui l'a invité? Bien, forcément, les gens qui pactisent avec le diable. Et ces gens-là sont les gens de Salem Sud. Ce sont les gens qui font commerce avec l'extérieur. Ce sont des gens qui ne respectent pas les Saintes Écritures à la lettre. Hein, on s'écarte des Saintes Écritures. Et en même temps, Il y a évidemment, c'est très complexe dans le procès des sorcières de Salem, parce que là, il y a une vengeance qui est exercée par les gens de Salem Nord contre les gens de Salem Sud. Toutes les accusées viennent toutes de Salem Sud. Les premières accusations viennent, bien sûr, des filles de Samuel Parrish, ouais. Une de ses filles, Abigail, qui va, elle et des amis, qui vont bien sûr pointer du doigt, par exemple, une esclave, mais une domestique qui était d'origine antillaise, qui les aurait initiés un peu à la magie, à la sorcellerie, alors qu'en réalité, c'est une culture païenne, ce qu'on appelle un syncrétisme. Hein. Les religions qui viennent d'Afrique, très souvent, durant la période de l'esclavage, acceptaient ou collaient à leurs croyances des symboles ou des figures religieuses du catholicisme pour pas qu'on les accuse de s'adonner à des cultes païens. Comme par exemple, des gens qui s'adonnaient au vaudou, par exemple, une religion qui nous vient d'Afrique centrale, les gens qu'on déportait de l'Afrique vers l'Amérique, ben là, évidemment, ils étaient châtiés, sévèrement châtiés, s'ils continuaient d'entretenir leur religion. Alors, on changeait des personnages. Alors, Dambala, par exemple, le grand dieu Dambala, on le remplaçait, par exemple, par la figure de Saint-Joseph.
C'est vrai, on leur demandait d'avoir des religions comme alternatives, mais basées quand même sur un fond de christianisme.
Voilà, exact. Ouais. Fait que là, quand les gens, si on était un propriétaire terrien, qu'on avait des esclaves, qu'on entrait dans une cabane qui était occupée par des esclaves, et on les voyait en train de fêter ou de festoyer autour d'une statue de Saint-Joseph, bon, on était fiers. On se disait, ah, ben là, les voilà, ils se sont convertis. Mais ces gens-là ignoraient que, dans le fond, Saint-Joseph n'était qu'une figure qui remplaçait, qui représentait leur dieu Dambala. Tu vois un peu? Donc, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est on prend des figures ou des notions qu'on emprunte au christianisme et on va les associer à des cultures païennes pour essayer d'amoindrir le fossé. Dans le cas de Salem, c'est un peu, on a un peu la même chose ici. Donc, la fille du révérend Paris, je vais dire, bon, ben il y a cet esclave qui nous a initiés à... Bon, c'est une histoire, là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est encore
ça. Ça vaut la peine d'y aller, ça vaut vraiment le détour, pour vrai.
On brisait un œuf, puis la façon dont le jaune flottait sur le blanc de l'œuf, ça nous disait si on était pour trouver un mari ou non. Puis bon, là, dans un des œufs qu'elle a ouvert, selon la tradition, il y avait du sang dans l'œuf. Puis c'était épouvantable. Mais ensuite de ça, les filles de Samuel Parrish, la fille de Samuel Parrish, sa cousine et une voisine ont commencé à être malades, à éprouver des symptômes. Et puis ces symptômes-là, on les retrouvait chez les animaux. Et c'est peut-être un des éléments qui fait que là, évidemment, les accusations ont entraîné le procès des sorcières de Salem. Mais il y a un élément dans le procès des sorcières de Salem, parce qu'il n'y a rien de simple. Hein. Les chasses aux sorcières, là, ce n'est pas simple. Et c'est un sujet qui est académique, c'est un sujet qui se discute entre des historiens et des spécialistes et des sociologues, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte ici. Et dans le cas des sorcières de Salem, on retrouve tous les éléments qu'on retrouvait dans les chasses aux sorcières en Europe, avec un élément de différence, c'est-à-dire qu'on a des récits, hein, qu'on regarde les procès des sorcières de Salem. Je ne sais pas si tu as eu la chance de visiter le musée Peabody, qui est à Salem, où on a des extraits des procès des sorcières. Là. C'est fabuleux. Tu lis ça, puis écoute, ça donne le... Ah, écoute, j'en parle, puis le poil me lève, c'est... Oh, là, j'ai tellement été fasciné par ça. Et quand les gens viennent témoigner, ils parlent des symptômes chez les animaux, on voit bien que les animaux sont malades. Et, hein, ils sont pris de convulsions. Puis les gens de Salem, même ceux qui ne seront pas accusés de sorcellerie, eux aussi tombent malades, eux aussi ont des visions. Et lorsqu'ils sont malades et ils ont des visions, ben, ils accusent évidemment ceux et celles qui sont pointés du doigt comme étant des sorciers et des sorcières. Et ça, cette dynamique-là, elle est très, très particulière. Et on n'a pas une explication dans l'absolu.
Non. Hein.
Mais une explication qui a été proposée, qui est fort intéressante et qui demeure, hein, qui tient encore la route aujourd'hui, même si on ne peut pas le démontrer de manière éloquente. C'est une hypothèse qui a été avancée il y a déjà plusieurs années par Linda Corporal, qui, elle, son père, était médecin et travaillait notamment avec des toxicomanes. Et elle a, et donc elle connaît bien le comportement des toxicomanes. Elle a grandi dans une clinique où son père, évidemment, elle n'a pas grandi là quand elle avait 5 ou 6 ans, mais on comprend quand elle était adolescente, jeune adulte, elle a côtoyé les patients qui venaient rencontrer son père et elle voyait un peu les comportements de ces toxicomanes. Et quelques années plus tard, elle a suivi des cours en sociologie, elle a aussi suivi des cours en psychologie, et elle a proposé comme hypothèse, il y a un parasite du seigle, qui est l'ergot, et l'ergot, si on le consomme, il rend malade les gens et il a également il contient des substances psychotropes qui sont assez proches, hallucinogènes, psychotropes, qui sont proches du LSD. Et quand on regarde les procès des sorcières de Salem, ce qu'elles racontent, bien souvent, on a l'impression d'une intoxication au LSD. Or, l'ergot de seigle faisait ça. Alors, une des hypothèses qu'on a proposées pour expliquer une partie des... Il y a toujours la politique, il y a toujours la vengeance, entre les communautés, la religion joue un rôle important. Mais on se demande encore aujourd'hui si dans le cas des sorcières de Salem, on n'a pas eu une couche supplémentaire. Et cette couche-là était celle des animaux et des gens malades qui, eux, se seraient empoisonnés justement à cause de cette vision qu'ils devaient être autosuffisants avec leur propre culture. Le seigle aurait été contaminé par l'ergot et ils utilisaient le seigle à la fois dans la nourriture domestique, particulièrement dans des farines qu'on utilisait pour faire le pain, par exemple, mais on utilisait également le seigle dans la moulée pour les animaux.
Oui, pour ça que les deux tombaient malades.
Donc, les animaux tombaient malades aussi. Et on arrivait, évidemment, à cette époque-là, dans une vision manichéenne, on ne trouvait pas le dénominateur commun. Donc, ça ne devait forcément être que le diable. Et le procès des sorcières de Salem, il est tout à fait fascinant parce que à partir du moment où les procès commencent, là, on est aux alentours, les premières accusations, les premières rumeurs commencent aux alentours de mémoire, on en dit 1790, et elles vont s'achever aux alentours de 1692, et vont s'arrêter à 1694 à peu près, les dernières relaxes à 1695. Et durant cette période de la sorcellerie, évidemment, il y a pas de, comme on met tout ça, on fait comme un gros, gros lot avec ça. Et là, on essaie de trouver un dénominateur commun qui pourrait expliquer l'ensemble de tout ce qui s'est passé, alors que c'est plusieurs éléments qui se sont passés. Hein. Donc, le procès des sorcières de Salem, comme je l'ai mentionné, 1690, 1695 à peu près, pour les dernières relaxes. Elles vont s'achever d'ailleurs parce que des gens vont se mettre à accuser la femme du gouverneur.
Hein. Oui.
Tant et aussi longtemps qu'on accuse des pauvres personnes, des pauvres gens, et bien souvent, on accuse des femmes qui sont soit veuves ou des femmes de caractère. Hein, qui s'opposent un peu à aux politiques masculines. Hein, et elles vont s'opposer à ça et elles sont vues, bien sûr, comme étant des marginales. Et les procès vont se poursuivre jusqu'à temps que parmi les accusateurs et accusatrices, il y en a qui vont pointer du doigt la femme du gouverneur. Et là, la femme du gouverneur, qui est une femme excessivement pieuse, ne peut pas avoir été impliquée dans les rituels, les sabbats des sorcières que l'on décrit. Alors éventuellement, le gouverneur va intervenir en disant « il faut que ça cesse ». Et c'est comme ça que les procès des sorcières de Salem vont s'arrêter. Le dernier, de mémoire, là je te parle, j'ai pas de notes devant moi, mais de mémoire, le dernier procès de sorcellerie aux États-Unis, c'est 1734.
Oui, ça a été quelques années plus tard, effectivement.
1734 au Tennessee. Disons que le phénomène de la sorcellerie puis des chasses aux sorcières, c'est un sujet que je connais bien. J'ai été fasciné par ça et je le suis encore aujourd'hui. Écoute, je t'en parle puis je déboulonne. Là, je suis dans cet univers-là. Et c'est amusant parce que, content que tu aies été là, de voir comment la ville de Salem a récupéré l'histoire des sorcières de Salem.
Oui.
Puis là, aujourd'hui, elle en fait un peu comme...
C'est un tourisme, 100%.
Oui, elle joue l'aspect lucratif de la chose. C'est quand tu te promènes dans Salem, puis tu vois les chars de police, puis ça appartient à des chars de police, l'emblème de la ville, c'est une sorcière sur un balai.
C'est parfait. Les garages mécaniques ont aussi des sorcières avec des balais. Sur des balais.
Absolument. Tout tourne autour des sorcières de Salem. Et depuis quelques années, maintenant, derrière, près de la rue principale, maintenant, il y a comme un jardin, il y a une espèce de pharmacie qui est là, tout près du musée. Hein, il y a le cimetière.
Oui.
Tu as sûrement vu le cimetière.
Oui.
Où il y a le mémorial des sorcières, là, des pierres avec le nom des sorcières qui ont été exécutées avec la date de leur exécution. Juste un peu au bout, je ne sais pas si tu as pu le voir, là, mais... Bon, pour ceux qui connaissent un peu les lieux, quand on arrive au bout de la ruelle et qu'on tombe sur la rue principale, il y a une pharmacie, il y a un parc maintenant. Ouais. Et on sait maintenant que c'est dans ce parc que les sorcières, et ça on le sait depuis tout récemment, que c'est dans ce parc que les sorcières ont été exécutées. Avant, okay. On ignorait où elles avaient été exécutées. On disait elles ont été exécutées à l'extérieur de la ville.
Ouais,
de
la ville.
Il faut comprendre que la ville... Bon, t'as vu la maison des juges, là, la grosse maison noire, probablement. Là.
Il y a une bonne fille. Seven... Il y a une bonne fille pour la
maison des Seven Gables, là, les sept juges. Mais bon, il y avait... Mais on disait, elles ont été exécutées à l'extérieur de la ville, mais on ne savait pas où. Et là, récemment, il y a quelques années, on a retrouvé des vieux cadastres de l'époque et on a vu l'endroit où on exécutait les sorcières, l'arbre où elles étaient pendues. Parce que dans le cas des sorcières de Salem et dans tout le cas de toutes les sorcières aux États-Unis, il n'y a jamais eu d'exécution par bûcher. Donc, je me rappelle avoir vu quelquefois dans des émissions, entendu dans des émissions de radio ou vu dans des émissions, ou entendu dans des émissions de télé, des espèces de phrases du genre « on a brûlé les sorcières de Salem ». On n'a jamais brûlé de sorcières en Amérique, on n'a pas fait ça.
Okay.
On les pendait, l'exécution. On pendait les sorcières et un des exécutés, tu as probablement vu son mémorial, Gilles Corée.
Le monsieur de la pile de roche, là?
Oui, voilà.
Ouais,
okay. Dans le cas de Gilles Corée, il n'a pas été forcément accusé de s'adonner à la sorcellerie, mais on l'a accusé de couvrir sa femme, Martha, qui, elle, avait été accusée de sorcellerie. Mm. Et l'exécution de Gilles Corée, ça a été, on a placé sur lui une planche de bois, un gros morceau de bois, et on empilait des pierres. En forçant Gilles Corée à avouer qu'il avait surpris sa femme à s'adonner à la sorcellerie, ce qu'il n'a pas avoué. Et éventuellement, il est décédé, il est mort par ses pierres. Donc, dans le mémorial des sorcières, il y a une pierre qui nous rappelle le décès de Gilles Corée. Et donc, on sait que les sorcières... Bon, on a pendu les sorcières, mais on ne les a jamais brûlées. Donc, il faut s'enlever ça, l'idée des bûchers des sorcières en Amérique, ça ne s'est pas produit. Mais bon, depuis quelque temps, maintenant, on sait à quel endroit elles étaient exécutées à Salem.
Je me suis trempé le petit orteil dans cette histoire-là. J'ai adoré, mais maintenant, j'ai l'impression que tu es en train de me convaincre d'aller en Europe pour aller voir l'histoire d'un autre continent. Puis le premier sujet, c'était une cause inattendue des chasses aux sorcières. J'ai un gros, gros point d'interrogation.
Oui, et ça, c'est... Donc, tu le vois, je me passionne beaucoup pour ces histoires de sorcellerie. Et je me rappelle même à l'université, j'avais des collègues qui faisaient de la sociologie, puis on parlait de ça, et ça restait encore une énigme. Comme je l'ai mentionné, dans le cas des sorcières de Salem, ça a été également vrai en Europe. Les chasses aux sorcières en Europe étaient liées à plusieurs facteurs. Ce n'est pas un facteur. Et dans ces facteurs-là, on s'est souvent posé la question, quel était le facteur prédominant? Et le facteur prédominant qu'on retenait, bon, d'abord, combien de gens, là, on va immédiatement mettre ça au clair, là, même si Dan Brown dit qu'on a exécuté 13 millions de sorcières dans le code da Vinci, là, ça, c'est la population de l'Europe à l'époque, là, non, il n'y en avait pas tant que ça. En fait, le nombre varie entre, grosso modo, entre 50 000 pour les plus réservés, là, on parle de 45 000, 50 000, et les plus
saucés, on va dire.
Ouais, les à l'extrême, là, au maximum, là, les plus pessimistes. On parle de quelque chose entre 150 000 et 200 000 sorcières. Donc, c'est un chiffre entre 45 000 et 200 000 sorcières, mais certainement pas davantage que ça. Et même le 200 000 paraît très excessif. Ensuite, il faut quand même dire que de ce nombre-là, 95 % des sorcières étaient des femmes. Hein? Il y a eu un 5 % là, d'hommes, mais majoritairement, c'était des femmes qu'on exécutait. Et la grande question qu'on se posait, parce que c'est sûr que les femmes, c'est celles qui portent le péché en elles. Hein? Le péché originel, c'est les femmes, donc obligatoirement, elles sont plus faibles, elles se laissent convaincre par le diable. C'est Ève qui s'est laissée convaincre.
Au prix d'hystérie à l'occasion. Ah, ouais, ouais.
Le mot hystérie, d'ailleurs, hein, ça vient d'utérus. Hein?
Oui.
C'est une déformation du mot utérus. Donc, ça nous montre bien un peu cette vision-là. Et la femme était pointée du doigt comme étant la responsable de l'invasion ou de l'arrivée du diable. Mais la question que les historiens se posaient, et se posent encore aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réponse claire, quel est l'élément déterminant qui a entraîné les chasses aux sorcières? Donc d'abord, il y a eu moins d'exécutions que Dan Brown le dit, là, mais quand même c'est énorme. Même si on s'entend sur un chiffre, mettons 100 000, c'est quand même beaucoup de gens qu'on a exécutés. Et ensuite, l'autre élément qu'on doit retenir, souvent on entend dans des conversations l'idée de « Ah oui, au Moyen-Âge, on poursuivait les sorcières ». Ça aussi, c'est faux. Hein? On ne poursuivait pas les sorcières au Moyen-Âge. Les chasses aux sorcières dont on parle, ça s'est produit au début de la Renaissance. dans le Moyen Âge, la sorcellerie n'était pas condamnée par la mort. À l'époque, évidemment, la nécromancie, tout ce qui était les formes de magie, était mal perçu par l'Église, évidemment, et même condamné par l'Église. Mais c'était pas des crimes qui entraînaient la peine de mort.
Okay.
Donc, si tu étais surpris, une madame était surprise à faire un rituel de magie, on lui donnait une tape sur les doigts, on pouvait lui donner un petit coup de fouet par-ci, par-là. Mais c'était pas une pratique qui était condamnable de la peine de mort. Ça, il faut attendre une bulle papale, hein, donc c'est une bulle papale, comment te décrire ça? C'est comme un énoncé papal, une nouvelle loi, un nouveau dogme instauré par l'Église.
Un décret.
Un décret, oui, voilà, oui, c'est le okay. mot que je cherchais, un décret. Donc, le 5 décembre 1484, donc là, on est au tout début de la Renaissance. La Renaissance, là, il y a un flottement sur la date précise. Là. Certains disent que c'est la chute de Constantinople en 1453. D'autres font remonter ça quelques années avant ou quelques années après. Mais on s'entend que la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, grosso modo, à une année ou deux années près, là, on parle de 1450. Ça, c'est le début du Moyen Âge, la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance.
Okay.
Et il faut attendre une trentaine d'années après le début de la Renaissance, lorsque le pape, c'est Clément VIII, à ce moment-là, va émettre cet édicté papal, qu'on dit bulle papale. On est le 5 décembre 1484. Et là, le pape, lui, est très préoccupé par ça, la sorcellerie qui semble se répandre un peu partout à travers l'Europe. Et on veut absolument mettre un terme à ça. Et là, lui dit, à partir de maintenant, on va chasser les sorcières. Et la sorcellerie est un crime qui est condamnable de la peine de mort. Ça ne veut pas dire, attention là, ça ne veut pas dire qu'au Moyen Âge, dans certaines petites communautés, des sorcières n'ont pas été exécutées, là. Mais ce n'était pas largement une condamnation qui était imposée par l'Église. Dans chaque village, il y avait peut-être quelques zélés, quelques juges, quelques magistrats un peu zélés qui ont envoyé au bûcher ou à la pendaison quelques sorciers et sorcières. Mais il faut vraiment attendre cette fameuse bulle papale de 1484 qui détermine que maintenant la sorcellerie sera un crime qui sera condamnable de la peine de mort. Et là, on se dit, bon, mais pourquoi à ce moment-là, et qu'est-ce qui va faire que cette peur des sorcières va se répandre à travers l'Europe? Il faut savoir que la première peur, elle est bien réelle. Ce n'est pas une peur imaginée, c'est la peur du diable.
Okay.
On a peur du diable. Le diable, il fait peur, le diable. Et on a peur. Donc ça, c'est une peur qui est bien réelle. Évidemment, au-delà de la peur du diable, il y a d'autres éléments qui sont concomitants à ça. Et c'est un peu cette grande question que les historiens se posent. Quels étaient ces autres éléments concomitants? Bon, on sait que cette période, fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, a été marquée en Europe par des épisodes de sécheresse ou d'inondations, de maladies, la peste et autres. Bon, ce sont sûrement des éléments qui ont contribué à cette peur du diable. Hein. Si les gens mouraient de la peste, s'il y avait une épidémie, s'il y avait une sécheresse ou des inondations, forcément, ça venait détruire les cultures, ça entraînait des pertes et ça créait des états de famine. Donc, tout ça devait être forcément l'œuvre du diable. Donc, ce sont des éléments concomitants. Bon, certains ont parlé... On a désigné beaucoup les femmes. C'est vrai qu'au sortir de la guerre de 100 ans qui a marqué l'Europe, la guerre de 100 ans qui d'ailleurs a duré 116 ans. Là.
OK.
La guerre de 100 ans qui a duré 116 ans.
On a arrêté de compter.
Oui, c'est ça. Mais elle se termine à peu près à la fin du Moyen Âge. C'est un autre des éléments qui contribue à marquer la fin du Moyen Âge, le début de la Renaissance. Donc, cette guerre de 100 ans s'arrête. Et durant la guerre de 100 ans, c'est pas 100 ans d'années où les gens vont au combat. Là. C'est pas ça. Il y a la couronne britannique, l'Angleterre et la France se disputent des territoires français, qui sont aujourd'hui français, mais qui à l'époque appartenaient à la couronne britannique aussi. Donc il y avait une frontière qui se jouait, hein, qui montait, qui descendait en fonction des territoires et des allégeances également. Donc britanniques, les Anglais et les Français se faisaient la guerre, c'est la guerre de 100 ans. La guerre de 116 ans. Et dans cette guerre de 100 ans, évidemment, comme c'était des petites périodes, hein, il y avait des accalmies, puis là, hop, d'un coup, une petite période où les gens allaient guerroyer. Et quand les gens allaient guerroyer, bien évidemment, il y avait une espèce de conscription qui était faite par le roi pour envoyer les gens au combat. Ou bien les gens y allaient spontanément pour défendre leur pays parce qu'il y avait une espèce d'esprit nationalisme. Et à travers ça, bien sûr, les femmes qui étaient laissées seules dans les villages s'organisaient elles-mêmes. Et souvent, elle s'organisait par, autour d'une femme qui avait un caractère un peu plus de chien dans le nez, comme on dit, une femme qui était plus, un peu plus autoritaire. Et souvent, ces femmes-là instauraient leurs propres lois et souvent, ces lois-là allaient un peu contre les lois de l'État. Et tu comprends que quand est arrivé des chasses aux sorcières, ben, il y en a quelques-unes d'entre elles qui s'étaient attirées un peu la colère des autorités. Quand on a commencé à les accuser de sorcellerie, on s'est dit, ouais, c'est une bonne chose. Il y avait une espèce de mouvement féministe.
Un petit ménage, hein,
oui. Ouais, il y avait un petit mouvement féministe qui se développait à ce moment-là, puis l'autorité masculine n'aimait pas bien ça. Donc, on s'est dit, c'est une bonne. Ah, ben, voilà une telle ou une telle, on l'accuse de sorcellerie. On ne cherchait pas beaucoup plus loin. Puis vite on l'exécute, puis ça va se terminer. Mais ce sont des petits éléments secondaires. Les grands éléments qui marquaient la chasse aux sorcières, c'était la famine, les maladies, etc. Mais on se dit, il doit sûrement avoir d'autres choses. Et un des éléments qu'on avait évoqué, mais qu'on n'avait pas démontré de manière très explicite. Puis là, je sais que j'arrive à ma première nouvelle, mais c'est un sujet que j'aime tellement.
J'adore.
J'arrive à ma première nouvelle. Mais là, écoute, si tu veux, on peut prendre une pause, puis après ça, je te reviens avec la nouvelle. On entre directement dans la nouvelle, si tu veux.
On garde le suspense.
OK, parfait.
Restez là.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, Christian Page, la chasse aux sorcières en Europe. On a parlé de la peur du diable. On a parlé aussi que ben, des femmes de caractère, les bonnes femmes, comme on les appelle, ben, on n'aimait pas vraiment ça à l'époque. Et encore aujourd'hui, je dirais que c'est encore plus ou moins facile à l'occasion. Ouais, on n'a pas de pouvoir.
Il y a toutes sortes de trucs qui sont intéressants, hein, comme le balai. Il y a comme deux significations. Ben, on voit
ah,
toujours
oui?
les sorcières sur le balai. Le balai a deux significations. Hein. L'association première, c'est de dire que le balai est un instrument domestique qui était lié à la femme. Hein. Bon,
oh!
Donc, les femmes et leur balai.
Elles ne sortent jamais sans leur balai.
Ouais, voilà. Mais il y a un aspect un peu plus pervers. On disait également, il y avait une plante qu'on disait la racine du diable, qui était la mandragore. Et la mandragore a des effets, elle passe à travers la peau, puis elle entraîne des effets hallucinogènes, ou en tout cas très, très récréatifs, disons ça comme ça.
Okay.
Et on disait que les femmes utilisaient le manche de leur balai qu'ils recouvraient de mandragore et qu'elles l'utilisaient comme godemichet. Et quand elles voyageaient, bon, t'as compris. On n'a pas besoin de plus de détails. On en reparlera avec la sexploratrice,
mais
si
oui,
tu veux bien. Mais bon, c'est un peu...
Je l'apprends! Non, mais
oui.
C'est fou!
Oui. Il y avait toutes sortes de trucs qui étaient assez étonnants, hein? Et là où j'en étais avec cette nouvelle, donc on a parlé beaucoup de la chasse aux sorcières, Salem Nord et Salem Sud. Salem Sud, qu'on appelait aussi Salem Village à l'époque.
Oui.
Hein, c'est là que ça se passait. C'est là que les parfums y étaient. Mais en Europe, ça a été un peu la même chose. Donc, à partir de la fin de au moment où la chute de Constantinople ou la fin de la guerre de 100 ans, qui se termine en toutes les deux en même temps, en 1453, qui marque le début de la Renaissance, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de chasse aux sorcières. Il faut attendre quelques années. Il y a cette fameuse bulle papale qu'on évoquait en 1484 et qui, là, déclenche le mouvement des chasses aux sorcières. Et les historiens se posaient, mais quels sont les éléments? Il y en a plusieurs éléments, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus fondamental que les autres? Et voilà qu'il y a un article qui est paru le 9 septembre dernier, un trésor. Je l'ai dit, là, je l'ai lu. C'est fantastique, c'est dans un périodique scientifique qui s'appelle Theory and Society. Et c'est un périodique scientifique sur la sociologie. Et voilà qu'on a un groupe de chercheurs, des chercheurs américains qui se sont penchés sur cette histoire des chasses aux sorcières. Et ce qu'ils ont remarqué, un peu comme la guerre de 100 ans que je t'ai mentionné juste avant la pause,
oui,
où on ne s'est pas battu pendant 100 ans. Il y avait des vagues de batailles. De temps en temps, on bataillait, puis là, il y avait une petite accalmie, on rebataillait encore à nouveau. Mais les chasses aux sorcières, ça a été un peu la même chose. Hein. Ça s'est surtout tenu là, à partir du début, au début de la Renaissance, là, aux alentours de 1450, 1460, quand on parle de la Renaissance. Et elles vont se poursuivre jusqu'en 1750 à peu près. Donc ça, c'est la grande période des chasses aux sorcières. Et elles ont été, et ce sont des chasses aux sorcières qui ont été par vagues. À un moment donné, il y avait un peu une accalmie, puis d'un coup, bang, il y avait un nouveau boom qui faisait qu'on se lançait dans ces chasses aux sorcières. Et cet article dans Theory and Society montre que ces périodes de persécution accrues étaient toujours fonction, et il le démontre très bien, elles sont toujours fonction de la publication de quelque chose. Et donc, l'un des éléments, et ça nous rappelle le monde contemporain dans lequel on le vit, ça nous montre que le média entraîne la réaction.
Ben, oh! Hein?
Tu vois, les grandes chasses aux sorcières n'existent pas avant la Renaissance. Et à la Renaissance, en 1450, Johannes Gutenberg va inventer l'imprimerie. C'est un Allemand, oui. Le Gutenberg. Oui. Il invente ça en Allemagne. Or, après avoir inventé l'imprimerie, il y a cette fameuse bulle papale de 1784 qui va être émise. Et en 1786, donc 2 ans plus tard, il y a 2 inquisiteurs qui s'appellent Henri Institoris et Jacques Sprenger qui vont écrire un ouvrage qui est encore disponible aujourd'hui. Là, les gens fouillent en librairie vont trouver ça. Ça s'appelle « Le marteau des sorcières ». Le titre original, c'est le « Malleus Maleficarum ». Le « Malleus Maleficarum », il a été écrit originalement en latin, comme je l'ai mentionné, publié en 1786, fin 86, début 1487. Et cet ouvrage-là, il va devenir le livre de chevet de tous les inquisiteurs. C'est The Book, hein, c'est le livre. Là-dedans, on t'explique qui sont les sorcières, ce qu'elles font, comment distinguer les sorcières, quels sont le châtiment qu'on doit imposer aux sorcières. C'est vraiment le livre de chevet de tout inquisiteur. Or, bien sûr, les chasses aux sorcières vont commencer là, de manière très accrue après la publication du Malleus Maleficarum. Et ensuite, au fil des décennies, de nouvelles publications, des traités sur le diable, des traités sur la sorcellerie vont paraître. Et on comprend bien, elles vont paraître parce qu'elles sont imprimées. Ce sont des livres à grande diffusion, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, avant, ces fameuses chasses aux sorcières, avant, les livres à grande diffusion étaient toujours des livres manuscrits et ça ne concernait que de toutes petites communautés. Et là, soudain, avec l'invention de l'imprimerie au milieu du 15e siècle, on voit apparaître des livres imprimés à grande diffusion. Et chaque fois, ce que démontre l'article de Theorian Society, c'est qu'à chaque fois où une publication importante est faite, après le Malleus Maleficarum, il faut s'entendre que ça, c'est le premier, ouais. Mais après ça, au cours des 2 siècles qui vont suivre, à chaque fois qu'il y a des ouvrages importants qui sont publiés et traduits, que ce soit en allemand, que ce soit en français, que ce soit en anglais, des ouvrages qui sont présentés ou qui sont disponibles aisément à cause de l'imprimerie, qui peuvent se répandre facilement. Mais à chaque fois qu'il y a ces publications, on voit un accroissement des chasses aux sorcières. On devient plus virulent envers les chasses aux sorcières. Ah. Et ce que démontre l'article, c'est que l'une des causes, et peut-être même la cause fondamentale des chasses aux sorcières, bien sûr, il y a la peur du diable, bien sûr, il y a toutes les maladies où on accuse le diable, mais on a besoin d'un élément supplémentaire, on a besoin d'un détonateur pour que les gens se rallient. Et ce détonateur-là, c'est ce que présente Theorian Society, pourrait bien être l'invention de l'imprimerie. Et cette invention de l'imprimerie, bien, c'est le média qui diffuse l'information. Et c'est pas fou, parce que quand tu regardes aujourd'hui, je pense encore à Umberto Eco, avant son décès, Umberto Eco qui a écrit Au nom de la rose, là, notamment, un roman qui a été porté à l'écran, qui est un grand auteur italien.
Oui.
Je me rappelle Umberto Eco, un peu aussi Le pendule de Foucault, là, c'est qui avait écrit. Mais quand on parle un peu de temps avant son décès, on avait demandé à Umberto Eco ce qu'il pensait des médias sociaux. Et il avait dit une phrase, et garde ça en esprit, puis tu vas voir qu'il y a une connotation qui est assez importante. Umberto Eco avait dit, vous savez, il dit, les médias sociaux, là, il disait, avant, les gens disaient des bêtises dans des bars, puis on les faisait taire avant que cette information-là soit répandue dans le public. Aujourd'hui, les médias sociaux, c'est l'invasion des imbéciles. Ces gens-là ont autant de droits de parole qu'un prix Nobel.
C'est vrai.
Et c'est pas fou, parce que tu regardes, on a pu le voir, peu importe où on se place, là, mais tu sais, des théories du complot, des affirmations, des fake news là, qui se sont mises à circuler, n'importe quoi, allant de la Terre est plate ou on mange des chats et des chiens à Springfield, peu importe. Mais on voit comment le média est une courroie qui transporte l'information et les gens y adhèrent.
À vitesse grand V, en plus.
À vitesse grand V. Et une information comme celle-là n'aurait pas dépassé le quartier chez vous. Là, hein. Quelqu'un aurait sorti une affaire comme ça, là, puis ça n'aurait pas dépassé le quartier. Là. Mais là, soudainement, cette information-là, on la retrouve dans Facebook, sur TikTok et partout. Et en un temps éclair, elle est diffusée un peu partout à travers la planète. Et là, bien sûr, des gens qui sont dans des espèces de chambres d'écho, hein, vont lire ça, puis disent, hey, oui, voilà, c'est ça qui est arrivé. Ben, en fait, on voit ce même modèle se dessiner avec les chasses aux sorcières. On a des livres qui se mettent à circuler. Avant, on n'avait que des petits documents manuscrits, des lettres, des accusations. J'accuse mon voisin de s'adonner à la sorcellerie. T'sais. Mais là, soudainement, des livres sont publiés, des livres sont diffusés un peu partout à travers l'Europe. Et ces livres-là nous mettent en garde contre les sorcières. Et on nous dit même comment les reconnaître, comment les exécuter.
C'est le guide du bon persécuteur, en fait.
Voilà, tout à fait. Et la question que posent les chercheurs, c'est sans cette publication ou la multiplication des publications, parce que je t'ai mentionné le Malleus Maleficarum, mais le Malleus Maleficarum n'est pas le seul. C'est le, en français, là, il est disponible, on peut l'acheter sur Amazon. Ça s'appelle Le Marteau des sorcières. C'est une lecture qui est aride un peu parce que tu comprends que c'est une écriture de la Renaissance. Hein? Donc, la formulation du texte est demeurée inchangée. D'ailleurs, soit dit en passant, parmi les rares personnes à avoir eu entre ses mains ou avoir possédé un original du Malleus Maleficarum, il y avait Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin, qui en avait un exemplaire dans son immense bibliothèque.
Ah, oh, ouais!
Je pleurais de savoir ça. Donc, mais bon, ça étant dit, donc, Jimmy Page, j'espère qu'il va me coucher son testament pour le Malleus Maleficarum. Mais bref, il y en avait une copie originale. C'est un ouvrage qui est excessivement recherché. On comprend pour les gens qui s'intéressent à l'occultisme et l'histoire de la sorcellerie.
Est-ce qu'on a un estimé du nombre encore en circulation aujourd'hui?
La dernière fois que j'ai vu un Malleus Maleficarum, un original là, qui a été publié, là, comme je t'ai mentionné, en 1486-1487, la dernière fois que j'en ai vu un passer, c'est chez Sotheby's à Londres.
Oui, ouais, la maison d'enchères.
Maison d'enchères. Et le prix de mise en vente débutait à 25 000 livres sterling.
Ah, oh, pas super, pareil. Je pense que c'était 25 comme... millions.
Wow! Non, 25 000 livres sterling, ça commence à faire beaucoup. Là.
Quasiment
c'est beaucoup
50 000.
De sous, là, ouais, ouais. Ouais. C'est un ouvrage. Puis, bon, heureusement pour les amoureux d'histoire, ce livre-là continue d'être publié et republié parce okay. qu'il est essentiel pour essayer de comprendre la pensée des gens de la Renaissance par rapport à la sorcellerie. Mais cette idée-là vient certainement s'ajouter. Là. Quand on lit cet article-là, les comparaisons qu'ils font, il faut d'ailleurs se rappeler aussi que Institoris, j'ai trouvé de la misère avec son nom, Institoris et Springer, les deux qui ont écrit le Malleus Maleficarum, les deux étaient germanophones. Hein, c'est-à-dire que le premier, là, Institoris, de son vrai nom, il s'appelait Henrik Kramer. Ben, Henrik Kramer, il est né en Alsace. Et à l'époque, au début de la Renaissance, l'Alsace était une région qui était limitrophe à l'Allemagne, ouais. À la Germanie, qu'on disait à l'époque. Et c'est une région qui était germanophone. Et exactement comme Jacques Springer, lui aussi, il est ouvertement allemand. Il était allemand. Donc, on a deux auteurs germanophones qui vont publier un ouvrage écrit en latin au pays de Gutenberg, et soudainement cet ouvrage-là se trouve diffusé à travers toute l'Europe, et les chasses aux sorcières se débutent à ce moment-là, et elles vont connaître des recrudescences à chaque fois où un nouveau traité sur la sorcellerie publie. Cet article-là du Theorian Society, écoute, c'est un bijou, on lit ça, on voit les correspondances qu'il y a entre les mouvements de chasse aux sorcières, les persécutions, et en même temps, concomitant à ça, on voit la publication des ouvrages importants qui ont marqué l'évolution de la pensée de la sorcellerie à travers la Renaissance. C'est tout à fait remarquable, et je me sentais le besoin de vous partager cette merveilleuse nouvelle à mettre dans notre livre avec un petit crochet en disant « Ouais, ça, OK, ça se peut que la publication, l'imprimerie a contribué quelque part aux chasses aux sorcières. »
Ça a donné une popularité. J'y vais mettons, j'exagère dans ma comparaison, mais Harry Potter a eu le même effet au début des années 2000. Là, comme tout le monde voulait être un sorcier. Là, c'est un effet d'entraînement de susciter l'intérêt. C'est contagieux, le bouche à oreille aussi. Ça a été fascinant. Il nous reste encore quelques minutes, Christian. On a 6 minutes devant nous. Et une autre nouvelle que je sais que tu avais hâte de parler, tu l'as même ébruité sur ta page inexpliquée cet après-midi. C'est des nouvelles informations, une nouvelle découverte peut-être sur l'appareil d'Amelia Earhart, qui est la première femme à avoir traversé l'océan Atlantique.
Oui. En fait, c'est une nouvelle un peu décevante.
Et je
l'explique pourquoi. Amelia Earhart, et pour moi aussi, c'est un gros... Moi, j'avais plein de choses qui m'intéressent. La disparition d'Amelia Earhart, tu l'as mentionné, grande aviatrice, première femme à traverser l'Atlantique. On l'avait d'ailleurs surnommée Lady Lindy, en comparaison à Lindbergh, qui avait été le premier à traverser l'Atlantique. Et puis, son grand projet d'aviatrice était de faire le tour du monde, une équipée qu'elle a débutée à l'été de 1937. Et tout a bien été. Hein. C'est une espèce de course à relais. Je fais le tour du monde, mais évidemment, ça ne se fait pas d'un seul coup d'œil. On doit se ravitailler en carburant. Donc, c'est un peu une course à relais. On fait le tour du monde, mais on doit arrêter à différents endroits pour se ravitailler. Ce qui nous amène finalement au 1er juillet 1937. Elle s'est ravitaillée à La Haye, en Nouvelle-Guinée. Et sa dernière envolée, doit être de La Haye aux îles Hawaï. Et là, elle va revenir aux États-Unis d'où elle est partie. Mais évidemment, on ne peut pas partir de la Nouvelle-Guinée, se rendre à Hawaï d'un seul coup d'aile. Elle doit se ravitailler en chemin. Et entre les deux, il y a perdu au milieu du Pacifique austral, il y a une petite île qui s'appelle l'île de Howland. Et elle doit rejoindre l'île d'Howland où on a aménagé une piste de fortune. La garde côtière américaine a envoyé un navire qui s'appelle l'Itasca et pour essayer de guider l'aviatrice pour qu'elle se pose, se ravitailler puis repartir vers les États-Unis. Donc, après un vol d'à peu près 20 heures, donc on est rendu le 2 juillet, il y a quelque chose qui cloche. Là. On sait maintenant qu'au départ de La Haye, elle a brisé l'avion de l'époque, c'est un Lockheed Electra 10E. Et quand on voit des photos des vieux avions, on voit comme des fils d'acier, là, soit sur le dessus de l'avion ou en dessous de l'avion. Ça, ce sont des antennes. Et l'antenne de réception de l'avion d'Amelia Earhart était placée sous le quai d'Electra. Et au moment où elle décolle de La Haye, quand on regarde les images, on voit à un moment donné que le fil se brise. L'avion rebondit un peu sur la piste et le câble, l'antenne de réception s'est brisée. Donc, elle quitte et puis une vingtaine d'heures après, elle est au-dessus de l'océan, elle cherche à se poser. Elle ne voit pas l'île Howland. Pourtant, on a allumé un feu avec un panache de fumée qui se voit à des kilomètres. Et là, les gens d'Itasca l'entendent bien. À mesure que les heures s'écoulent, on sent qu'elle est de plus en plus préoccupée. Elle mentionne que ses réserves de carburant sont presque à sec. Elle est seule avec son navigateur qui s'appelle Fred Noonan. Elle tourne en rond. Elle essaie de trouver l'île en question. Les gens de l'Itasca l'entendent bien, mais sont incapables d'entrer en communication avec elle. Et puis l'avion disparaît. Et ça devient, jusqu'à la disparition du MH370 de la Malaysia Airlines, c'était la disparition de l'avion d'Amelia Earhart demeurait le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Et c'est une fascination pour les amateurs d'histoire insolite, genre triangle des Bermudes et tout le reste.
Ben oui.
Et même pour les amateurs d'histoire de l'aviation, c'est une grande aviatrice qui disparaît dans des circonstances tout à fait nébuleuses. Et voilà qu'en début d'année, un groupe de gens qui cherchaient l'avion d'Amelia Earhart, hein, il faut savoir que chaque année, il y a 3-4 groupes différents d'amateurs d'histoire de l'aviation qui patrouillent l'océan dans cette région-là, chacun espérant trouver des débris de l'avion d'Amelia Earhart. Il y a plusieurs hypothèses qui s'affrontent. Une voulant que l'avion soit tombé à la mer et coulé au fond. Une autre où elle aurait tenté d'amerrir et de gagner un petit archipel pas tellement loin, là, les îles Phoenix, et une île en particulier, l'île de Nikumaru. Mais personne n'a pu démontrer l'une ou l'autre de ces hypothèses. Et là, en début d'année, un groupe de gens qui patrouillaient l'océan à quelques 160 km de l'île Howland, cette fameuse île où elle aurait dû se poser pour se ravitailler, sont arrivés avec des photographies, puis une photographie assez convaincante, c'est une image sonore où on voyait reposant sur le fond de la mer à 4400 mètres de profondeur. C'est énorme, c'est la profondeur du Titanic. Là. On voyait une espèce de forme qui rappelait vaguement un avion, mais même la queue de l'avion, hein, c'est une double aile, un double aileron à l'arrière de la queue. On avait même cette impression-là en regardant les images sonores. Évidemment, les gens de ce groupe-là, qui s'appelle Deep Sea Vision, n'ont pas annoncé ouvertement en janvier, voilà, on a trouvé l'avion d'Amelia Earhart. Mais ils ont dit, ben voilà, en regardant les images sonores, on a capté cette image sonore dont la forme, la silhouette nous rappelle vaguement celle d'un avion de type Electra, comme celui d'Amelia Earhart, et les dimensions correspondaient également à l'avion. Moi, déjà à ce moment-là, quand j'ai vu les images, je reconnaissais, j'ai dit ça, ouais, c'est vrai que ça a l'air d'un avion, mais ça me paraît invraisemblable que l'avion d'Amelia Earhart soit demeuré intact. Il faut savoir que l'avion d'Amelia Earhart est un fuselage en aluminium sur une charpente, une espèce de squelette en bois. Bon, si aujourd'hui il reste des débris de l'avion d'Amelia Earhart, peut-être des parties en acier comme le train d'atterrissage ou les moteurs, mais penser de retrouver l'avion là, intact, comme ouais. Ça me paraissait un peu invraisemblable. Mais néanmoins, l'image était assez convaincante, ça donnait espoir. Moi, je dois t'avouer que quand j'ai vu ces images-là, c'était peut-être les premières images où je me suis posé la question « et si c'était ça ?» Tout ce que j'avais vu avant, rien ne m'avait convaincu. Mais là, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, et si c'était ça? Mais voilà que Deep Sea Vision vient de rendre public il y a quelques jours. Ils sont retournés sur place pour explorer davantage cette forme et qui, malheureusement, s'est révélée n'être qu'une formation rocheuse. Oh. Avec une forme très particulière, c'est vrai, on a l'impression que c'est un avion, mais ce n'est rien d'autre qu'un monticule de roche dans le fond de l'océan.
Christian, si on allait creuser, là, est-ce qu'on ferait une découverte à la fossée de dinosaures en dessous? Ça s'est-tu formé comme ça parce que l'appareil est en dessous?
Non, ça semble être bel et bien une simple formation rocheuse. Parce que les images montrent bien que vu... Un peu comme, peut-être les gens vont se rappeler que dans les années 70, à un moment donné, on avait eu une sonde autour de Mars, la sonde Viking. Il y avait eu un atterrisseur, puis une sonde en orbite aussi autour de Mars. Et la sonde Viking avait photographié un monticule de roche qu'on appelait le visage de Mars. Ça avait vraiment l'air d'un visage humain. Comme sculpté à la surface de Mars. Mais les missions subséquentes, là on est dans les années 70 avec la sonde Viking. Il faut attendre une vingtaine d'années avant que la NASA renvoie vers Mars de nouvelles sondes. Et ces nouvelles sondes vont repasser au-dessus de ce qu'on appelle une région qui s'appelle la région de Cydonia. Et ils vont reprendre des photographies. Et là, on va voir sur les photographies que ce qui semblait être un visage sur des photos de mauvaise qualité, avec des images de meilleure qualité, on voit bien que ce n'est qu'un jeu d'ombre et de lumière et que ce visage-là n'est rien de plus qu'un monticule de roche. Mais c'est exactement ce que l'on a ici. C'est-à-dire que les premières images publiées en début d'année, c'était des images de la faible résolution, des images sonores qui donnaient l'impression vaguement d'un avion. Mais quand on voit les images, j'en ai mis une d'ailleurs sur ma page inexpliquée, une image là, beaucoup plus proche, là on voit bien que c'est simplement une formation rocheuse. Donc le débat est lancé à nouveau. Où se trouve l'avion des Amelia Earhart. Comme je l'ai dit, les deux hypothèses qui s'affrontent, c'est ou bien elle est tombée en mer et l'avion a sombré, ou bien elle a tenté un amérissage près d'un petit atoll qui s'appelle l'île de Nikumaroro, qui se trouve dans l'archipel des Phoenix.
Notre cerveau a voulu y croire cet après-midi quand on a vu l'image. Hein. C'est vraiment, on veut faire l'association quasiment automatique.
Mais on veut bien. Parce que notre cerveau aime pas le vide. Qui est abstrait. Oui, il aime pas le vide, il aime pas l'abstrait. Puis comme cette image-là, ben, ça a l'air d'un avion. On veut bien y voir un avion, mais malheureusement, c'est pas ça.
Christian, c'est toujours un plaisir encore une fois. Excellente émission ce soir. Je suis très contente et je te souhaite un excellent week-end de même qu'aux auditeurs. J'ai eu des commentaires cette semaine sur notre Suspect X comme quoi un auditeur n'a pas été capable de terminer son tartare. Ça ne me surprend pas. La semaine prochaine, on est dans l'un peu moins scabreux, je vais le dire comme ça, pour l'épisode. Rendez-vous à 22h lundi. Je vous souhaite un bon week-end et à vendredi prochain pour les Radio X-Files.
Absolument. Merci à toi. Salut.
Bye-bye.